À la une de ce journal, la neutralisation des sanctions par les développements économiques est la stratégie clé de l'Iran. Déclaration ce matin du chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian. Le ministère iranien de renseignement a arrêté deux ressortissants européens pour avoir organisé les émeutes. Et puis les forces israéliennes tuent une journaliste travaillant pour la chaîne de télévision panarabe Qatari Al Jazeera en Cisjordanie occupée. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que la neutralisation des sanctions par les développements économiques et la répartition équitable du système de paiement des subventions constituent les stratégies clés du pays. Faisant référence au plan de transformation économique et aux négociations pour lever les sanctions, Hossein Amir Abdollahian a écrit dans un tweet mercredi 11 mai les deux stratégies de neutralisation et de levée des sanctions sont poursuivies. Protéger le pays par les développements économiques et la répartition équitable du système de subventions constituent les stratégies clés de l'Iran. Les pourparlers pour la levée des sanctions se poursuivront dans la bonne direction, en respectant les lignes rouges de l'Iran, pour parvenir à un bon accord durable et fort, a-t-il ajouté. Le chef adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne et coordinateur de l'Union européenne pour les pourparlers de Vienne a annoncé mardi 10 mai dans un tweet se rendre en Iran afin de discuter des lacunes restantes sur les négociations concernant le nucléaire iranien. Selon le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Shamkhani, les progrès réalisés dans les négociations de Vienne pour lever les sanctions injustes, qui sont suivis par la visite du responsable adjoint de la politique étrangère de l'Union européenne à Téhéran, coïncidant avec le plan de transformation économique, sont une indication de la prise de conscience du gouvernement iranien des questions politiques et économiques les plus importantes du pays. L'Iran a appelé la Belgique et deux autres pays européens à répondre aux objections concernant la condamnation d'un diplomate iranien pour un prétendu complot d'attentat à la bombe que Téhéran juge illégal. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a déclaré que Téhéran poursuivrait ses efforts juridiques pour aider à libérer Assadollah Assadi, diplomate à l'ambassade d'Iran en Autriche. Il a été détenu en Allemagne et condamné à 20 ans de prison en Belgique en 2018 après avoir été accusé d'avoir organisé un attentat à la bombe contre le groupe terroriste anti-iranien OMK. Le porte-parole a déclaré que toute l'affaire était un scénario mis en scène par la milice armée terroriste OMK pour propager l'iranophobie. Il a réitéré la position de l'Iran selon laquelle la détention, le procès et la condamnation du diplomate constituaient tous des violations de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Mardi, un tribunal belge a rejeté les recours de trois Iraniens accusés d'avoir participé au complot. Sachez également que le ministère iranien du renseignement a arrêté deux ressortissants européens, je vous le disais en titre, pour avoir organisé les émeutes. Le ministère iranien du renseignement a fait part de l'arrestation de deux ressortissants européens pour avoir organisé les émeutes dans le pays. Selon les relations publiques du ministère, deux ressortissants européens qui sont entrés dans le pays dans le but d'abuser des revendications légitimes de certaines classes et couches du pays et de changer la direction des revendications normales en chaos, désordre social et déstabilisation de la société ont été identifiés et arrêtés par le ministère iranien du renseignement. Sur la base des interceptions transfrontalières du ministère iranien du renseignement, les deux ressortissants européens étaient à la pointe de la surveillance du renseignement du ministère. Ces deux ressortissants européens, depuis leur arrivée en Iran jusqu'à leur arrestation, tous leurs plans et rencontres secrets, leur couverture utilisée et les lignes d'opération destructrices transférées à certains centres concernés, y compris une organisation illégale intitulée « Conseil de coordination des syndicats de personnes culturelles », ont été entièrement surveillés et documentés. L'actualité régionale, les forces israéliennes tuent un journaliste travaillant pour la chaîne de télévision Al Jazeera, basée au Qatar, en Cisjordanie occupée. Shirin Abu Akleh a été tuée d'une balle dans la tête alors qu'elle couvrait un raid de l'armée israélienne sur la ville de Jenin. Elle portait un gilet pare-balles bleu clairement marqué « Presse » au moment du tournage. Abu Akleh était une journaliste palestinienne chevronnée pour la chaîne en langue arabe d'Al Jazeera. Le diffuseur a qualifié son assassinat de crime horrible en violation des normes internationales. Le Qatar a condamné l'incident comme un terrorisme israélien parrainé par l'État. Le mouvement de résistance palestinien, le Hamas, affirme que le meurtre d'Abu Akleh met à nu la nature terroriste et violente du régime d'occupation. Selon le ministère palestinien de la Santé, un autre journaliste, Ali Samoudi, a été blessé lors de l'attaque. La guerre entre la Russie et l'Ukraine est à son 76e jour, mais les États-Unis affirment que le conflit pourrait se transformer en une guerre d'usure. La directrice américaine du renseignement national dit qu'elle ne voit aucune voie à suivre pour les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev, du moins à court terme. Les responsables américains prédisent également que les combats pourraient prendre des tournures imprévisibles au cours des prochains mois. Sachez d'autre part que la Chambre des représentants des États-Unis approuve une aide financière et militaire supplémentaire de 40 milliards de dollars à l'Ukraine pour l'aider dans la guerre en cours avec la Russie. Le programme d'aide qui doit être approuvé par le Sénat est supérieur à ce que le président américain avait initialement demandé aux législateurs. Réagissant aux évolutions, le Kremlin a également averti que l'armement de l'Ukraine pourrait conduire à une confrontation directe entre la Russie et l'Occident. L'Ukraine a déclaré qu'elle suspendrait d'autre part l'utilisation d'un point de transit pour une partie du gaz russe à destination de l'Europe et déplacerait le flux vers un nouveau point. La Russie affirme que cette décision est inessentielle et impossible. On se quitte avec la 33e foire internationale du livre de Téhéran qui s'est ouverte avec la participation de 32 pays. La 33e édition de la Foire internationale du livre de Téhéran a été inaugurée mardi soir après 2 ans de fermeture causée par la pandémie de COVID-19. L'événement a eu lieu en présence de Mohamed Mehdi Esmaili, ministre de la Culture et de l'Orientation islamique, Mohamed Wassam Al-Murtada, ministre de la Culture du Liban, administrateur culturel et des éditeurs de 30 pays dans la grande mosquée Imam Khomeini. 170 éditeurs de 32 pays, dont la Suisse, l'Inde, Hong Kong, l'Allemagne, les États-Unis, l'Italie, la Chine et la Russie participent à cette édition. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Visite de l'émir du Qatar en Iran, l'aube de la fin des crises régionales. L'expert iranien des affaires d'Asie occidentale a déclaré que les ennemis transrégionaux cherchaient à semer la discorde dans la région, ajoutant que la visite de l'émir du Qatar à Téhéran pourrait être le début de la fin des crises régionales. Dans une interview accordée à l'IRNA, Seyed Reza Sadr al-Husseini, expert iranien des affaires d'Asie occidentale, faisant référence à la visite de l'émir du Qatar à Téhéran cette semaine, a déclaré « Considérant que la priorité de la politique étrangère du gouvernement Raïsi est de développer les relations avec les pays voisins musulmans et non-musulmans, les relations qui se sont établies en politique étrangère au cours des derniers mois repose sur cette feuille de route et constitue la politique stratégique de la République islamique d'Iran. L'expansion des relations politiques, économiques, commerciales et surtout énergétiques avec le Qatar peut être efficace pour maintenir et renforcer la paix et la sécurité dans la région, a-t-il ajouté. Récemment, le président iranien Ebrahim Raisi a effectué une visite au Qatar qui a été officiellement accueillie au plus haut niveau possible. Au cours de cette visite, des accords ont été conclus dans tous les domaines, de sorte que l'émir du Qatar se rendra à Téhéran plus tard cette semaine en réponse à la visite de notre président et au suivi des accords et contrats signés entre Téhéran et Doha, a indiqué cet expert. En effet, toute mesure prise pour mettre en œuvre les accords signés peut contribuer à établir la sécurité, promouvoir la paix et empêcher la présence de pays transrégionaux dans la région stratégique du Golfe Persique, a-t-il précisé. Notons que la visite de l'émir du Qatar à Téhéran témoigne la bonne volonté de certains pays arabes envers l'Iran, Sadr al-Husseini a poursuivi. Des ennemis transrégionaux tentent de répandre la question des différences ethniques perses-arabes et la présence de l'émir du Qatar peut certainement être une ligne d'invalidation sur cette ligne irrationnelle et irréelle de pays transrégionaux. Pour cet expert iranien, l'un des points importants à considérer lors de la visite de l'émir du Qatar en Iran concerne les crises qui existent dans le monde islamique. Les deux pays peuvent être ainsi considérés comme un point de départ pour mettre fin aux crises avec leur influence dans différentes parties du monde musulman. Compte tenu des points de vue communs de l'Iran et du Qatar sur la question de la Palestine, la proximité des deux pays peut aider la Palestine à réaliser ses idéaux, y compris la libération d'Al-Quds, a-t-il conclu. L'émir du Qatar se rendra demain 12 mai en Iran pour suivre les accords et élargir les relations entre les deux pays, en particulier la coopération bilatérale pour la Coupe du monde de football 2022.